déclaration de revenus par an.
Avez-vous déjà entendu parler du testament biologique?
C'est donc un ensemble de critères qui fait varier la cotisation d'assurance.
On a des fluctuations de 1%.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Occupe-toi de tes affaires. Et voilà, occupe-toi de tes affaires, c'est le conseil qu'on doit tous se donner. C'est notre chronique du lundi où je reçois quelqu'un qui va vous aider à gérer un problème dans vos finances personnelles. Aujourd'hui, on a décidé de parler de gestion de cartes de crédit. Pourquoi? Parce qu'on en a tous au moins une. Certains les collectionnent d'ailleurs, avec ce que ça veut dire aussi de problèmes à les gérer. Yvan Cournoyer est avec nous, il est président du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Bonjour Yvan.
Salut Isabelle.
Alors, avec l'arrivée de l'automne, on sait qu'on a souvent des dépenses imprévues. On utilise la carte de crédit, ben, les dépenses de l'été, hein? Les dépenses scolaires, parce que là, on s'en rend compte, ça coûte de plus en plus cher, les rentrées scolaires, les vêtements. Bon, bref, c'est la rentrée, puis on dépense. De toute façon, on dépense, point. Hein, Yvan, quand on regarde les chiffres d'endettement, j'étais encore surprise de voir que on est près du 179% de taux d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque dollar de revenu que vous avez, vous faites un dollar de revenu, là, ben vous en devez 1,79$. Ouch!
Faut faire attention, ça inclut les dettes hypothécaires.
Ouais, mais donc, quand même.
Oui, mais quand même, c'est très élevé. Les gens sont très endettés.
Comment gérer comme il faut notre carte de crédit dans un contexte comme ça où tout le monde a quand même relativement des dettes là?
Il faut être discipliné. Hein? Si on n'est pas discipliné, on risque de se mettre dans une situation qui va être fâcheuse. Et idéalement, il faudra avoir l'argent pour être capable de payer le solde quand la carte va, quand le relevé va être émis. Donc, idéalement, on a l'argent puis on utilise la carte de crédit pour gagner un délai de grâce où est-ce qu'on ne paiera pas d'intérêt. Le problème qu'on rencontre, c'est que les gens vont consommer sans avoir l'argent pour payer. Et là, évidemment, ils vont s'embarquer dans un bourbier financier. Là.
C'est-à-dire qu'il faut utiliser sa carte de crédit, donc vraiment comme du crédit à très court terme. Et, non, et donc, idéalement, tu rembourses ton solde à la fin du mois.
Oui.
Et donc, tu en profites pour utiliser les points que les cartes de crédit peuvent t'offrir, les voyages, certaines bébelles là, qui te permettent d'avoir gratuites. Enfin, gratuites, on les paye sans doute, vous me direz, mais... Donc, on utilise le principe de la carte de crédit, mais pas à long terme. C'est ça que vous dites, Yvan.
C'est ça. Il faut être capable de la rembourser quand quand le relevé va être émis. Il faut être capable de faire le paiement. Là.
Le problème, c'est que la majorité des gens ne le font pas.
Effectivement. Puis, ils vont faire des paiements minimums et ça va tarder. Si on fait le paiement minimum seulement, on a pour 4 ans à 5 ans à rembourser le solde. Et là, on va payer de l'intérêt durant toute cette période-là.
Parlons de l'intérêt, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui ne sont pas tout à fait sûrs de comment ça marche. Disons qu'on paye notre paiement, on doit 1 000 mettons, sur une carte de crédit. Paiement minimal, ils vont nous dire, mettons,
5
5 OK.
Donc, règle générale, 5 de paiement minimum. Fait que si on doit 1 000 il faudrait payer au moins
ça 50
mais il ouais. faudrait en rajouter un petit peu. Il faudrait rajouter un montant par-dessus le 50 pour montrer à la machine Equifax et TransUnion, qui sont des algorithmes qui vont calculer votre cote de crédit. Il faudrait rajouter un petit montant additionnel pour démontrer à la machine qu'on est capable de payer un petit peu plus que le minimum.
OK. Combien va être le taux d'intérêt sur ça? Est-ce que si les cartes de crédit nous disent souvent, bon, c'est 19,99%, là, près de 20%, ça c'est annuel?
Oui, annuel, mais c'est composé quotidiennement. Donc, les intérêts s'accumulent à tous les jours. Donc, si on a 19%, ça se peut qu'au final, ça soit 21% en réalité. Mais il existe des cartes à taux réduit qu'on pourrait utiliser. On reçoit des offres, des fois, transférer le solde chez MBNA à 0% pendant un an, c'est bien d'en profiter. Si on est discipliné pour transférer l'argent puis ne pas y toucher, comme ça, on va avoir un taux de 0% pendant un an. Il y a des cartes, que j'invite les gens à faire, c'est appeler les cartes émettrices et demander d'avoir les cartes à taux réduit. Ça, il y a peu de gens qui le font. Fait qu'ils vont peut-être passer de 19% à 9% par exemple.
Est-ce que toutes les compagnies de cartes de crédit ont des cartes à taux réduit?
Non, il faut les contacter. Il y en a qui ont des montants annuels. Il faut payer un certain montant pour avoir la carte à taux réduit. Mais on fait le calcul. Si on a 5 000 sur une carte, on paye 19% d'intérêt. Peut-être que ça vaut la peine de donner un 50 pour avoir une carte à taux réduit. Donc, un 50 annuellement de frais annuels pour avoir une carte qui va tomber à 9% au lieu de 19%.
Oui, tout à fait. Ça vaut la peine. Est-ce que... Bon, vous dites le taux d'intérêt, il faut faire attention parce que des fois, c'est 19%, mais ça peut être, puisque c'est composé, 21%. Mais j'ai quelqu'un qui me pose la question, c'est par an, ça, c'est pas par mois.
C'est par année.
C'est par année. Oui. Donc, par mois, ça équivaut à
un douzième
de ça, là. C'est ça.
Oui.
Mais savez-vous quoi? J'ai appelé une compagnie de carte de crédit la semaine dernière. Le gars qui répond, il était tout mêlé. Il me dit, ça va être 20 % pour ce mois-ci. Si tu ne payes pas ton solde, tu auras 20 % de taux d'intérêt. J'ai dit, ben non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Ça arrive souvent que les compagnies de carte de crédit elles-mêmes sont des mauvaises conseillères.
Ben c'est ça, c'est des employés qui sont au bout du téléphone. Hein, fait que des fois, ils ne connaissent pas nécessairement à fond leurs produits. Ça arrive, malheureusement.
Il faudrait qu'on soit nous-mêmes plus au courant. Vous dites, un banquier va regarder les 5 C du crédit. Quels sont-ils, ces 5 C du crédit?
Souvent, les gens me disent, « Ah, Yvan, j'ai un bon crédit. » Puis là, je leur demande, « OK, pourquoi tu as un bon crédit? » Ben, ma cote est à 800, par exemple.
Ce qui est bon, parce que c'est quoi le maximum? C'est 900?
C'est 900, le maximum. Ouais. Donc, c'est très bon d'un point de vue cote de crédit. Ouais. Donc, les 5 C du crédit, c'est la cote.
Oui, la cote de crédit.
Que okay. Tout le monde pense que c'est juste ça qui est important. Mais le banquier, avant d'octroyer un prêt, lui, il va regarder les 5 C. Donc, les 4 autres C que le banquier regarde,
ouais.
C'est la capitale dont vous disposez. On va acheter une maison, puis on a 2000 $ puis on va voir le banquier. Mais ça se peut que notre prêt soit refusé. Tu sais qu'ils ne veulent pas nous octroyer un prêt parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter la propriété. Donc, le capital dont on dispose, c'est important. Le troisième C, c'est la capacité à rembourser le prêt. Hein, on est travailleur autonome, par exemple, on gagne 18 000 par année, on déclare 18 000 pour pas payer beaucoup d'impôts. On arrive pour aller emprunter pour acheter un triplex, par exemple, puis le banquier va dire ben, t'as pas assez de revenus, tu seras pas capable de couvrir les paiements. Ensuite, le quatrième, c'est.
Oui, mais si on. Ce que vous dites, si on déclare un montant qui n'est pas forcément qui est un montant imposable, mais qu'on laisse de l'argent dans l'entreprise ou dans notre compte en banque, il y aurait quand même. À moins qu'on le dépense tout, là, l'argent qu'on fait.
Ouais,
le banquier doit bien voir qu'il y a de l'argent quelque part.
Oui, il y a aussi la capacité à réinjecter de l'argent en cas de problème. Donc, le capital dont on dispose, si on le met tout dans l'immeuble, un coup qu'on achète l'immeuble, on n'a plus de liquidité, il n'aimera pas ça.
Ouais.
Donc, il faut être capable de réinjecter de l'argent en cours de route. Ensuite, il y a les collatéraux. Donc, le collatéral, les garanties qu'on peut donner aux créanciers. Habituellement, c'est pris sur l'immeuble qu'on achète.
Ouais.
Donc, le créancier se garantit sur l'immeuble qu'on achète, mais des fois, ils peuvent demander d'autres garanties. Et votre caractère, votre profil d'investisseur.
Ah, le caractère est un des C.
C'est pas le caractère vous êtes patient ou, tu sais, c'est pas ça, c'est votre profil d'investisseur, tu sais. Si on a de l'expérience, il va être plus enclin à dire oui.
Si on est émotif, dépensier, ce genre de choses-là, non?
Pas nécessairement, mais votre profil d'investisseur. Ensuite, comment la confiance que vous inspirez face aux banquiers, tu sais, si on arrive comme tout croche, puis on fournit pas les documents, il va perdre confiance un peu en nous. Là.
D'accord. Donc, les 5 C, c'est intéressant. La cote, votre capacité à réinjecter de l'argent, ce qu'on dit être le collatéral, c'est-à-dire toutes les garanties que vous pouvez donner, votre caractère, le type de client que vous êtes et le capital dont vous disposez. Parlons du premier, la cote de crédit, parce qu'on parle des cartes de crédit, puis souvent, ben, c'est la cote de crédit, comme quand on veut acheter une maison, là, qui décide un peu de ça. Vous dites, les gens pensent que c'est que ça, c'est pas que ça, mais c'est quand même important. Comment elle est décidée, cette cote de crédit?
Évidemment, c'est des algorithmes qui vont calculer tout ça. C'est pas un humain qui fait les calculs. Donc, à chaque fois qu'une information est envoyée chez Equifax et TransUnion, donc, par exemple, Visa Desjardins envoie l'information une fois par mois. Votre Banque nationale, parce qu'on a un prêt hypothécaire à la Banque nationale, envoie l'information à chaque mois. Donc, à chaque fois qu'une information arrive chez Equifax et TransUnion, c'est rentré dans un algorithme qui contient quand même plusieurs paramètres, quasiment une vingtaine de paramètres qui vont être pris en compte. Mais il y a quand même 5 gros éléments majeurs qui vont nous permettre de maintenir une bonne cote. Donc, peut-être qu'on peut aller dans les 5...
Je vous écoute.
OK, excellent. Donc, le plus important pour le banquier, quand il vous prête de l'argent, c'est est-ce que vous allez le rembourser à temps? Donc, premier paramètre considéré, c'est vos habitudes de paiement. Est-ce que vous payez avant l'échéance qui était déterminée avec le créancier? Donc, votre carte de crédit, c'est le 22 septembre qu'il faut payer.
Ouais.
Mais si on paye toujours avant la date d'échéance, on va maintenir une bonne cote. Ça compte pour 35 % du calcul, ça.
35 % c'est respecter l'échéance de la carte de crédit.
L'échéance de la carte de crédit ou du...
Mais là, on parle de carte de crédit, fait que c'est...
Ensuite, un autre 30 % c'est votre ratio d'utilisation. Donc, combien vous utilisez le crédit disponible? Par exemple, j'ai 2 cartes de crédit avec une limite de 20 000 $ chacune, un exemple. Donc, j'ai 40 000 de limite. Mais si je vais utiliser 30 000 sur mes cartes de crédit, sur 40 000 de limite, je vais être à 75 % et là, la machine, elle considère qu'on est trop endetté.
Ouais. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, loader sa carte.
Oui. Donc, faut pas trop les loader comme
exact,
tu dis.
Exact, c'est ça. Ah, donc, faut l'utiliser, mais pas trop.
Effectivement.
Mais disons, là, hypothétiquement, situation, est-ce que c'est mieux de l'utiliser très peu et utiliser plutôt sa carte débit ou utiliser sa carte de crédit la loader, mais payer son solde total à la fin du mois.
Ça, c'est merveilleux.
Ah, ça, c'est meilleur ça, c'est merveilleux. Encore.
Si vous êtes capable de remplir la carte puis de la payer à chaque fois, c'est merveilleux. Mm. Parce que là, la machine a dit, OK, il y a eu un gros solde, mais il l'a payé. Mm. Il est capable de bien gérer son crédit.
Donc, vaut mieux aller emprunter de l'argent à sa banque pour payer sa carte de crédit que de ne pas payer sa carte de crédit.
Ah, ça, c'est clair.
OK. C'est non, clair. Mais ça, c'est important que les gens comprennent bien ça. Ouais. Si vous avez de l'argent sur votre carte de crédit, allez emprunter pour la payer au moins, même si le taux d'intérêt est plus élevé à la banque. Ce qui vous paraît être élevé, ça va toujours être moins élevé que le taux de la carte de crédit.
Ouais.
C'est des taux, sincèrement, les taux des cartes de crédit, ça n'a pas de bon sens.
Ils sont élevés, mais si on sait comment travailler avec, si on travaille intelligemment, on est capable d'avoir des taux quand même relativement bas, comme j'ai dit tantôt, les cartes à taux réduits, puis les transferts de solde. Parce qu'il nous incite à transférer un solde sur une nouvelle carte à du 0,99 pendant 6 mois. Donc, on peut bénéficier de rabais de
il y en a des soldes comme ça en ce moment?
Oui. MBNA sont très agressifs.
Ils MBNA?
MBNA vont souvent vous offrir de transférer le solde chez vous à 0% pendant un an.
C'est qui ce MBNA? C'est pas une banque virtuelle? Oui. C'est ça, hein?
Oui.
Je sais pas si les gens font confiance aux banques virtuelles, comme Tangerine, par exemple.
Ouais, de plus en plus, oui. Moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais il y a plus en plus de gens qui les utilisent.
Est-ce que vous les utilisez? On va s'arrêter ici. Yvan Cornoyer est avec nous. Vous pouvez lui poser des questions sur l'utilisation de votre carte de crédit. On va essayer de répondre le plus possible à vos questions. Si vous avez eu, évidemment, des expériences malheureuses, on veut les entendre. Bien sûr, vous pouvez témoigner de tout ça. Si vous avez des trucs aussi, si on se les échange, on aime beaucoup ça. Dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. Partout au Québec, on salue les gens du 106.9 Mauricie, les gens du 107.7 Estrie. Merci d'être là avec nous, les gens du 147 Outaouais, Gatineau, bien sûr, on ne vous oublie pas. 1-866-790-9850 pour nous joindre. Et bien sûr, vous répondez à la question, est-ce que vous savez gérer votre carte de crédit? À tout de suite. Alors, c'est la chronique Occupe-toi de tes affaires. Je reçois Yvan Cournoyer, qui est président du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment mieux gérer nos cartes de crédit? On est tous là-dedans. On veut toujours des trucs. Et Alain, sans doute, vous aussi, vous cherchez des façons d'optimiser votre gestion des cartes de crédit?
Oui, et d'augmenter ma cote de crédit le plus possible. Et je me demandais, moi, j'essaie toujours de payer mes cartes de crédit. J'en ai malheureusement plusieurs et ils sont toujours à zéro habituellement. Sauf que là, je dois faire un gros retrait sur ma marge de crédit hypothécaire. Et ça va la mettre au maximum. Ma question était, est-ce que ma marge de crédit hypothécaire est considérée comme une carte de crédit qui serait au maximum et ça va m'enlever des cotes au niveau de mon crédit?
C'est une très bonne question, ça, Alain. Yvan Cournoyer?
C'est sûr que ça va influencer votre cote, mais l'algorithme va considérer la marge de crédit hypothécaire différemment parce qu'il y a un actif qui est relié à la marge. Donc, il y a une différence entre les cartes et les marges. Et effectivement, c'est sûr que si on la load dans le tapis, ça peut nuire à la cote là, à long terme. Mais vous pensez
que si j'ai 60 000 $ de cartes de crédit différentes, ils sont tous à zéro et je les paye tout le temps. J'ai un 35 000 de marge de crédit que lui serait comme à 32 000.
Donc,
ça peut jouer beaucoup, beaucoup quand même.
Donc, faut voir, comme je l'ai dit tantôt, c'est la limite totale. Combien qu'on utilise sur la limite totale? Donc, vous utilisez zéro sur vos cartes, sur une limite totale de 60 000. Puis l'autre, c'est 35 sur 35, mais ça va être 35 sur 95.
Hein? Mais est-ce mieux de baisser? Si vous n'utilisez pas votre 60 000 de carte de crédit, Alain, est-ce qu'il n'est pas mieux de baisser?
Non, c'est le contraire.
Non? Ah non? Okay.
C'est le contraire, il faut les augmenter. Parce que s'il utilise 35 000 sur sa marge, sur un total de 60 plus 35, donc 60 000 sur ses cartes, puis 35 sur sa marge, ça fait 95 de limite totale.
Ouais.
Donc, il utilise 35 sur 95, on est à peu près à 35 % d'utilisation.
Ah, ben
s'il augmente ses limites de carte de crédit, il va devoir 35 000 sur un plus gros montant, donc le ratio d'utilisation va descendre.
Bon point. Très, très bon point. On vient d'apprendre quelque chose.
Vous dites que si mon 35 000 était sur mes cartes de crédit...
Non, il vient de dire que, dans le fond, vous auriez avantage à augmenter vos limites de cartes de crédit parce que vous les payez bien et c'est à zéro tous les mois. Donc là, les algorithmes, qui ne sont pas des personnes humaines...
Oui, mais le pourcentage des cartes de crédit sont beaucoup plus élevés. La plus basse est à comme 7 ou 8 % et mon prêt hypothécaire, ma marge de prêt hypothécaire est à 4,5 ou 4.
Mais là, vous demandiez, est-ce que de quelle façon ça va augmenter ma cote ou ça va influencer ma cote? Et ce qu'il vient vous dire, c'est que...
La cote, c'est mieux de... Ouais, je comprends bien.
Parce que comme ça, votre pourcentage, votre ratio, utilisation marge versus utilisation carte de crédit, va être beaucoup plus faible si vous avez plus de limites sur vos cartes. Vous comprenez?
Ouais, je comprends bien. Ah bon, mais merci à vous.
Mais l'idée, c'est de ne pas les loader.
J'utilise beaucoup mes cartes de crédit, mais je les paie à tous les mois.
Ben ça, c'est magnifique.
C'est merveilleux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Merci bien.
Merci à vous. Hein. Merci pour votre émission.
Merci. Ouais. Marie, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous parler des cartes prépayées au monsieur qui est là.
Oui, à Yvan.
J'avais une question pour ça. Moi, j'ai fait une faillite personnelle. Je n'ai plus de carte de crédit. Et même si on m'en offre, j'en veux plus parce que je ne vais pas faire faillite encore. Puis là, j'ai acheté une carte de crédit prépayée qui m'a coûté 12 $ et c'est moi qui mets l'argent dedans. Mm-hmm. Fait que le montant que je suis capable de payer par mois pour une carte de crédit, une vraie, ben je le mets dans cette carte-là, puis je dépense pas plus.
Mais c'est magnifique si ça marche pour vous, ben oui.
Donc la question est?
Ben la question est, est-ce que ma cote de crédit va être, est-ce que cette carte-là va, ma cote de crédit va augmenter?
Ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire, parce qu'on a vu, on a parlé tantôt qu'il y avait qu'il y avait 5 facteurs qui influençaient la cote de crédit. On a parlé de vos habitudes de paiement. On a parlé du ratio d'utilisation. Donc, comment vous allez l'utiliser par la suite, la carte?
Il n'y en a pas d'habitude de paiement sur cette carte-là parce que c'est une carte prépayée. Moi, ma cote de crédit est rendue à 500 quelque chose. Évidemment, j'ai fait faillite. Mais c'est pas grave, là. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aie une vraie carte de crédit, juste une.
Oui.
Idéalement, quand on a fait faillite et on veut rebâtir le crédit, ça prendrait deux cartes de crédit et peut-être un autre type de prêt, un autre type de compte. Parce que les cartes de crédit, c'est un type de compte, mais quand on a fait faillite et on veut rebâtir le crédit rapidement, c'est bon d'avoir 3 types de crédit différents. Donc, ce serait bon d'avoir un autre type, peut-être un prêt personnel, aller faire un... Je ne vais pas mettre 1 000 $ dans un compte de banque puis aller vous chercher un prêt de 1 000 $ puis rembourser ce prêt-là. Donc, ça va faire un deuxième type de compte. Ça va vous aider à rebâtir le crédit plus rapidement.
Parce que moi, à ma banque, j'ai demandé une carte de crédit prépayée, mais j'ai oublié de leur demander si ça va pouvoir augmenter ma cote de crédit. Vous dites que non, hein, c'est ça?
Pas des masses, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ils viennent vous dire un peu, Yvan, ce qu'il faudrait faire. Ce qui est même si, quand on entend ça, merci Marie, puis bonne chance. Même si on entend ça, Yvan, puis on se dit, on s'entend que c'est pour nourrir la bête financière, là. Tu sais, quand tu dis, gars, mets 1 000 $ sur ton compte, puis emprunte 1 000 $, puis rembourse-la pour avoir du crédit, c'est comme. On nourrit des entreprises comme Equifax puis TransUnion. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi ces deux compagnies-là, qui deviennent des monstres grâce, entre autres, à Desjardins, parce qu'on en a compris qu'avec le dernier scandale des données, des pertes du vol de données de Desjardins. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, à Zone Franche, on a tout un débat là-dessus, là, à 20h à Télé-Québec. Ça va être super intéressant. Mais pourquoi Equifax? Pourquoi TransUnion? Pourquoi les gouvernements font confiance à ces deux entreprises-là? Puis je rappelle juste qu'ils ont eu des problèmes, elles aussi, de vol de données. Comment ça se fait que ça commence à être des entreprises qui ont toutes nos informations, qui décident si oui ou non on peut avoir du crédit?
Ben c'est pas Equifax et TransUnion qui décident
son
parti de crédit. Ils vont juste coter. Ça prend un système parce que quand quelqu'un va vous prêter de l'argent, il faut qu'il puisse se baser sur quelque chose. Fait qu'il va voir votre passé, votre historique, comment vous comportez. Donc, ça prend une
mais
centrale.
Mais ça va être réglé. Ça va rester là-dedans comme une tâche. Je veux dire, t'as un chèque qui a rebondi par erreur.
On retrouvera pas le chèque qui a rebondi dans le bureau de crédit.
On retrouve bien des affaires qui sont là depuis longtemps. Là. Je te jure, Yvan.
Chèque rebondi, je l'ai jamais vu.
Ben oui. Oui,
peut-être que tu en as fait 20, là, tu sais, ça en a plusieurs qui n'ont pas passé.
Écoute, des non-paiements, par exemple, tu as un truc avec accédé, tu n'as pas payé à temps.
Oui, parce qu'il y a une
même
créance.
Même si c'est un petit montant, là. Alors, je suis sûr que si on ouvrait les lignes là-dessus, tout le monde aurait des histoires.
Qu'est-ce que Equifax et TransUnion regardent, c'est les créances. Dans le fond, quand quelqu'un vous a octroyé du crédit, mais un chèque rebondi, ce n'est pas du crédit. À moins qu'on ait fait vraiment plusieurs, peut-être que là, le créancier va se tanner, il va mettre une genre de note au bureau de crédit, mais... Ce n'est pas du crédit de faire un chèque puis qui passe pas, là.
Mais il y a une certaine époque, c'était dedans, par exemple. Ils ont enlevé ça.
Je ne sais pas. Là, ouais. J'ai peut-être pas assez vieux pour ça.
On a Mireille qui est avec nous. Bonjour, Mireille.
Oui, bonjour. Bien, moi, tout d'abord, j'ai une seule carte, mais surtout, je suis inscrite au prélèvement automatique. Donc, chaque mois, c'est pris la totalité est prise dans mon compte de banque. comme ça, ben j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de le faire, et surtout, mais je suis certaine de jamais passer tout droit, puis donc je paye jamais, je paye pas un sou d'intérêt.
Ben vous avez pas de, c'est ça, vous gérez
c'est
bien,
vraiment, ouais. C'est merveilleux. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Puis c'est pratique aussi parce que moi, finalement, je traîne plus beaucoup d'argent sur moi. Je paye presque tout avec ma carte de crédit, ouais, chaque fois que c'est possible. Et puis, bon, on a des remises, tu sais, des jardins. Alors, il y a ça aussi qui est le fun. Mmh.
Mais
c'est à la fois pratique et sécuritaire pour notre compte de banque, pour nos finances.
Sécuritaire si vous avez une attitude disciplinée. Discipline. Parce que Marie disait, moi, je serais pas capable d'avoir une autre carte de crédit. Elle a une carte prépayée parce que comme ça, elle décide elle-même de combien elle va pouvoir dépenser. Elle est obligée de se mettre un cadre. Évidemment, bon, il ne faut pas se laisser aller. Merci, Mireille. Ron est avec nous. Bonjour, Ron.
Oui, bonjour. On vous écoute? Vous allez bien?
Oui, on vous écoute.
Oui. D'accord. Alors moi, je suis un banquier de carrière à la retraite. Je voulais juste apporter deux petits commentaires. Premièrement, il a été mentionné que on pouvait augmenter nos limites de crédit pour diminuer le pourcentage d'utilisation.
Oui. Ouais.
Alors, faut faire très attention à ça parce que le banquier, quand il va calculer les ratios d'endettement, il va calculer les limites de crédit comme si elles étaient utilisées.
Ouais, c'est ça.
Alors, si tu as 100 000 de limite, ça fait des gros versements. Alors, ça affecte ton ratio d'endettement négativement.
Effectivement.
Première chose.
Monsieur Ron, je suis d'accord avec vous. Tantôt, on parlait du ratio d'utilisation sur les cartes de crédit, les marges par rapport à Equifax et Transunion, mais je vous l'accorde que pour le banquier, si on va acheter une maison, un condo, un chalet ou un petit plex, où ce que le financement est basé sur la capacité personnelle à rembourser le prêt, c'est sûr que d'avoir des hautes limites, ça va nuire, parce qu'il y a un calcul qui est fait qu'on appelle ABD, ATD, donc l'amortissement brut de la dette. Et l'amortissement total de la dette, c'est sûr que d'avoir des grosses limites, ça nuit pour aller emprunter un petit immeuble. Mais tantôt, on parlait du ratio d'utilisation sur Equifax et Transunion, qui est une autre chose, mais je suis d'accord avec vous.
OK, d'accord. Hey, merci, voilà, Ron. Ben, merci beaucoup de ces précisions. Il y a Maryse qui dit, mon conjoint et moi n'avons plus aucune dette et nos actifs et cartes de crédit sont conjoints. Comment se fait-il que son crédit soit bon et pas le mien?
Faudrait vérifier, là, sortir sur Equifax et Transunion. Donc, commandez vos deux bureaux de crédit, puis comparer. Il y a peut-être des informations qui se retrouvent sur une, puis l'autre ne se retrouve pas sur l'autre.
C'est ça, exact. Il y a plein de gens là qui... Bon, il y a quelqu'un qui dit « Je viens d'être libéré d'une faillite. Comment faire pour reconstruire mon crédit? »
Donc, comme je disais tantôt, on se trouve deux ou trois comptes différents. Carte de crédit, prêt personnel, puis on paye, on paye ces cartes-là, puis on va rebâtir le crédit.
Ouais. Sincèrement, on aurait pu faire une autre demi-heure sur les cartes de crédit. On y reviendra, hein, parce que c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Yvan.
Merci,
Yvan Cournoyer du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Alors, je vous le rappelle, une carte de crédit, idéalement, on essaye de pas trop mettre de choses dessus. Et si vous le faites, ben, on paye la totalité de ce qu'on doit avant la fin du mois. Ça reste la meilleure façon de l'utiliser. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit. Nous allons nous arrêter ici et tout de suite après, en entrevue sans filtre, je reçois la chanteuse Marie-Denise Pelletier. Restez là, tout le monde.